France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Qu'est-ce qu'un public ? C'est notre série cette semaine. Nous explorons notamment les grandes critiques du public. Ce matin, Roland Barthes et Guy Debord, critiques du spectacle et de ses mythes. Ils ont 15 ans d'écart. Debord est le plus jeune, né en 1931, Barthes lui est né en 1915. Quand Guy Debord publie en 1967 La Société du spectacle, critique radicale du capitalisme de son temps où le capital est en fait le spectacle lui-même, Roland Barthes semble en avoir fini avec les tonalités marxistes de son livre Mythologie, paru en 1957. Et pourtant, malgré cette temporalité différente, les deux auteurs méritent d'être rapprochés. Ni l'un ni l'autre ne céderont jamais rien aux facilités du public, ce public qui bien sûr pourrait être prêt à les lire tous les deux. Aucune complaisance envers la bourgeoisie lettrée et pas non plus de fantasme de la classe ouvrière que l'avant-garde pourrait toucher, voire embarquer. Peut-être Barthes va-t-il croire plus longtemps que Debord dans l'art, dans la littérature, espace à la fois autonome et critique, alors que pour le situationnisme, quelque chose dans l'art est en train de mourir au XXe siècle, dans le gargantuesque spectacle où il est pris lui aussi. Mais malgré tout, la convergence est frappante entre l'idée de mythe, travaillée par Barthes, facilité qui guette nos pensées, nos écritures, défi majeur pour la littérature, et le spectacle debordien, visqueux, omniprésent, face auquel l'échec pourrait être inévitable. Faisons donc converser pendant une émission ces deux penseurs du XXe siècle. Bonjour Vincent Kaufmann.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, professeur émérite de littérature et d'histoire des médias de l'Université de Saint-Gall en Suisse. Vous avez publié en 2001 chez Fayard, Guy Debord, la révolution au service de la poésie, et plus tard en 2017 au Seuil, un essai qui marque une nette filiation avec Debord, dernière nouvelle du spectacle, ce que les médias font à la littérature. Et bonjour Éric Marty.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, professeur émérite vous aussi de littérature française de l'Université Paris Diderot, fin connaisseur de Roland Barthes, qui marque notamment votre ouvrage de 2021 paru au Seuil, Le sexe des modernes, pensée du neutre et théorie du genre. Vous venez de publier aussi chez Manutius une photofiction, L'amnésie des derniers jours, avec des photographies de Jean-Jacques Gonzalez. Écoutons tout de suite un extrait des mythologies de Roland Barthes précédé par un son qui a à voir avec son commentaire.
Nouveau balancier, ça fait très mal. Élongation. Et Régioris se défend comme il peut et frotte le nez le début.
Hop. Hey, attention. Oh. Eh bien voilà, je reçois. Tu me mets.
Je suis dans la mêlée, je viens de recevoir Régioris sur moi. C'est pareil, allez, arrêtez-vous là. Oh, la bagarre dans le public. La bagarre sur le ring. Alors là, vos places. Et à ce moment, c'est Régioris qui enfourche littéralement des buts et qui lui donne une véritable correction dans le coin. Le public debout acclame Régioris. Je n'ai jamais vu une ambiance pareille. Une ambiance absolument extraordinaire. Et Régioris bouscule des buts à coups de manchette et des buts ne s'effondre au coin du ring. Oh là 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 là, quelle violence! Que de violence!
Il y a des gens qui croient que le catch est un sport ignoble. Le catch n'est pas un sport, c'est un spectacle. Et il n'est pas plus ignoble d'assister à une représentation catchée de la douleur qu'aux souffrances d'Arnolphe ou d'Andromaque. Bien sûr, il existe un faux catch qui se joue à grands frais avec les apparences inutiles d'un sport régulier. Cela n'a aucun intérêt. Le vrai catch, dit improprement catch d'amateur, se joue dans des salles de seconde zone, où le public s'accorde spontanément à la nature spectaculaire du combat, comme fait le public d'un cinéma de banlieue. Ces mêmes gens s'indignent ensuite de ce que le catch soit un sport truqué, ce qui d'ailleurs devrait lui enlever de son ignominie. Le public se moque complètement de savoir si le combat est truqué ou non, et il a raison. Il se confie à la première vertu du spectacle qui est d'abolir tout mobile et toute conséquence. Ce qui lui importe, ce n'est pas ce qu'il croit, c'est ce qu'il voit.
Vous avez entendu une archive d'un match de catch commenté par Roger Couder en 1958 et ensuite une lecture de l'ouverture du livre Mythologie de Roland Barthes de 1957 et c'était lu par René Clermont. Je voudrais quand même m'étonner un petit peu, si vous le voulez bien, Éric Marty, parce que la notion de mythe est critique chez Barthes. Et là, évidemment, ce spectacle, dit-il, de la douleur, de la défaite et de la justice, tout ça avec des majuscules, c'est un grand mythe moderne qui critique. Et pourtant, on sent presque une tendresse pour l'objet qu'il analyse. Ça, c'est intéressant chez Barthes, cette tendresse aussi.
Alors, c'est aussi une stratégie. Ah. Une stratégie du livre. Commencer un livre qui est en fait une liquidation très violente de la mythologie petite bourgeoise française, de tous les mythes quotidiens, du beefsteak à l'abbé Pierre, en passant par les jouets d'enfants. Donc cette espèce de démolition violente, iconoclaste, sémioclaste, pour employer un mot un peu savant, est précédée par l'éloge d'un art ou d'une pratique extrêmement peu valorisé, le catch, et donc d'élever précisément cet art si peu apprécié au rang du théâtre grec, oui. Par une pratique similaire du signe. Et c'est ça qui est le paradoxe, c'est de penser qu'au fond, y compris dans les arts les plus médiocres, il y a la possibilité d'une pratique vraie du langage, qui ne passe pas par, comme les pratiques précisément mythologiques quotidiennes, qui passe par des pratiques où l'arpentation est l'alibi du bien, ou une sorte de falsification par le mythe du beau, du bien et du bon, mais au contraire se débarrasse de tous ces alibis au profit d'une exhibition du signe pur, et que Barthes nomme, qui est l'allégorie. Et en cela, évidemment, Barthes rejoint tout à fait Benjamin, qui a fait l'allégorie la figure sémiologique presque parfaite, au sens où c'est précisément l'anti-récit mythique. C'est le signe isolé qui, tout d'un coup, se sépare de toute psychologie, de tout projet, justificatif, et qui, à ce moment-là, a une densité esthétique, littéral, qui fascine Barthes.
Admirable, cette densité.
Oui, tout à fait.
Ou détestable.
Et admirable, parce qu'évidemment, admirable dans une forme un peu ironique, parce qu'évidemment, les catcheurs sont des créatures qui n'ont rien de sublime. Mais oui. Précisément, leur absence de sublime est peut-être le lieu où on peut découvrir encore, justement, une pratique juste du signe. Et toute l'obsession en fait de Barthes dans la mythologie, c'est de montrer que si la France va mal, si la France est pourrie, si le spectacle français est si médiocre, c'est précisément parce que la France, dans sa représentation, dissimule les signes pour y substituer justement des images du bien, du bon. Alors, prenons l'exemple de l'abbé Pierre.
Oui, l'abbé Pierre, un des mythes. Voilà. Alors aujourd'hui, en plus, ça nous fait vraiment bizarre.
Très bien, parce que, oui.
Un des mythes de Roland Barthes dans Mythologie.
Parce que justement, aujourd'hui, l'abbé Pierre est démystifié, mais pour d'autres raisons, on se rappelle que Pierre Bourdieu en avait fait l'éloge tout à fait béat à une époque contre Barthes, précisément. Ce que fait Barthes, c'est de démolir le visage de l'abbé Pierre. Ouais. Il y a un visage de l'abbé Pierre qui est le visage, justement, que les médias ne cessent de produire, qui est un visage précisément du bien, qui est un visage qui n'est pas interrogé comme visage. Et Barthes, ce que fait Barthes, c'est précisément montrer les différents éléments allégoriques de ce visage, la barbe, la calvitie, le regard, qui sont tous des icônes précisément de la charité chrétienne et qui donc sont en fait le masque, ce qui empêche de voir ce qui devrait être nécessaire, à savoir la justice et non pas la charité. Donc, ce que fait Barthes, c'est de montrer qu'en réalité, la critique idéologique ne doit pas passer par une critique des pensées, des idées, des préjugés, mais par une critique matérielle des signes par lesquels l'idéologie s'impose à nous comme visant à naturaliser le social.
Donc des clins d'œil spectaculaires, convenus.
Voilà.
Donc ce que vous appelez une pratique du signe, je vous propose qu'on reporte un tout petit
Bien
peu,
sûr.
C'est assez compliqué. Mais disons, parlons d'abord de la dimension spectaculaire des mythes. Le mot est lâché d'emblée, spectacle, par Roland Barthes. Vincent Kaufmann, certes, la société du spectacle de Debord n'est pas encore écrite, ce sera 10 ans plus tard, mais on trouvera chez lui aussi, chez Debord, l'idée que c'est normal qu'on aime ça. Le spectacle, c'est fait pour ça. Bien sûr qu'on aime, et sans doute que Debord devait avoir lui-même des moments de séduction par l'objet qu'il va critiquer si férocement.
Alors, je ne suis pas sûr qu'il avait des moments de tendresse ou de séduction pour ce qu'il a appelé le spectacle, au même titre que Barthes, peut-être, pour certaines des mythologies qu'il traite. Il y a quelque chose de
c'est stratégique aussi,
tranché, on pourrait presque dire agressif dans tous les développements qu'il fait à propos de la société du spectacle. Moi, ce qui me frappe ici, c'est que si on repart un peu de ce que Debord va dire du spectacle et de ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui si on continue de se poser la question de ce que le spectacle est devenu, on va peut-être y venir. En fait, le catch tel que Barthes le présente ici, ça serait presque l'opposé du spectacle tel que Debord le pense. D'ailleurs aussi quand il dit que le catch n'est pas un sport. Moi je dirais au contraire que cette formidable montée en puissance de spectacle sportif dans tous les médias.
C'est
un des symptômes de la domination du spectaculaire aujourd'hui qui retient notre attention avec l'affrontement, l'hostilité, le combat sous toutes sortes de formes plus ou moins réelles entre guillemets. Mais dans cette perspective, le catch tel qu'il est présenté ici, ça serait presque un objet anti-spectaculaire au sens
finalement
de Debord.
Ça, on pourrait en fait, c'est bizarre qu'il commence par ça. Il est vrai hein, que Barthes commence par, je l'ai dit, quelque chose par rapport à quoi il a un peu de tendresse. Parce que ça réunit les gens, parce que finalement, il est assumé que c'est un spectacle qui peut parfois être un peu truqué. Il y a quelque chose de franc. Le spectacle et le mythe se donnent de manière beaucoup plus oblique et sournoise. C'est clair, en tout cas, pour Debord, Vincent Kaufmann.
Oui, je crois que ça serait... Bon, il y a clairement des proximités au niveau du type de réflexion dont on parle aujourd'hui, Barthes et Debord. Je crois un grand point commun de leur approche, mais ça vaut pour quantité d'autres penseurs, intellectuels, artistes des années 50, 60, 70. C'est une sorte d'hostilité par rapport au public, une volonté de déstabiliser le public, parfois de le provoquer, de le rendre mal à l'aise, de l'obliger à se déplacer, de casser ses attentes, enfin, tout ce qui fait comme ça l'ordinaire, je dirais, de quasiment tous les mouvements d'avant-garde et des intellectuels critiques de l'époque. Donc là, il y a beaucoup de points communs, et puis une différence importante, c'est ce que vous évoquez à propos de Barthes en termes de tendresse.
Oui.
C'est-à-dire, il y a une sorte de façon chez Barthes d'être dedans et dehors, un petit peu dedans, un petit peu dehors, alors que Debord, lui, joue au contraire la carte, on pourrait presque dire, de l'extraterritorialité.
Ouais. Et de l'antispectaculaire complet.
Il nous parle de la planète Mars. Il fait comme s'il était entièrement en dehors de tout ça.
Et vous dites d'ailleurs qu'il a été très solitaire dès son enfance, dans sa famille. Sa mère s'est remariée, elle a eu d'autres enfants. Lui, il n'a jamais vraiment été intégré.
Oui, si on prend son histoire
et
familiale...
Et puis les institutions...
C'est très symptomatique. Son père meurt d'une tuberculose contractée pendant la Première Guerre mondiale. Donc il le perd quand il a 5 ou 6 ans. Sa mère va d'abord avoir des enfants avec un homme avec lequel elle ne peut pas se marier parce qu'il est italien et qu'il peut pas divorcer. Ensuite elle va se remarier. Puis Debord se retrouve un petit peu
tout seul, quoi, très vite,
dans une annexe avec sa grand-mère. il se trouve, hein, c'est le genre de choses qu'il faudrait peut-être interroger, mais qu'il n'y a pas assez de place dans la maison pour tout le monde.
Et puis jamais il n'a fréquenté une institution, jamais, jamais. Oui, et pourtant il a été très malade, même l'hôpital il n'y est jamais allé.
Plus tard, non, il refuse systématiquement les institutions, il reste complètement dans les marges. Il s'est vraiment constitué en enfant perdu, c'est un terme qu'il affectionne, qui vient, c'est un terme militaire au départ, les enfants perdus, c'est les soldats envoyés sur le front dont on sait qu'ils ne reviendront pas. Et Debord a placé toute sa vie sous le signe des enfants perdus, de celui qui est complètement perdu pour cette société spectaculaire.
Revendiqué, oui. Agressif, mm-hmm. Je veux dire. Il fallait taper, agressif, insulter.
Agressif au sens où il entend mener, dès sa jeunesse et jusqu'à ses derniers jours, une sorte de combat contre cette société du spectacle. C'est assumé, il se décrit dans...
Non, je parlais des descentes turbulentes de l'international situationniste. Enfin, excusez-moi, mais j'ai suivi vos cours, j'en ai fait avec vous des cours, et vous avez cette expression devant les étudiants, je vois pas pourquoi on la dirait pas à la radio, fallait foutre le bordel au maximum. Vous expliquez aux étudiants, c'était ça les situs, non?
Oui, il y a eu cette période-là, autour de mai 68, oui.
Alors, on va parler de Barthes et de voir s'il y a sans doute un mal-être dans la société dans laquelle il vit, mais ça ne prend pas les mêmes formes. Mais on va l'écouter, on va entendre sa voix. C'était Roland Barthes en 1957, justement, sur la chaîne nationale, dans une émission qui s'appelait « Plein feu sur les spectacles du monde ».
Il y a une acception générale du mot « mythe » qui est classique, n'est-ce pas, qui est celle d'une sorte de fable, de représentation collective du monde. Mais alors moi, j'ai essayé d'appliquer à cette définition une analyse plutôt linguistique, d'essayer de définir le mythe comme une sorte de langage collectif, sans tout de même abandonner le premier sens de représentation collective. Presque tous les mythes sont ambigus, c'est-à-dire ils ont un côté positif, n'est-ce pas, ils représentent une sorte d'aspiration profondément bénéfiques de l'humanité, et puis ils ont aussi un aspect alors plus mystifiant, enfin plus mensonger, et les deux éléments sont intimement liés, il n'y a pas de doute.
Évidemment, il était normal dans ce cas-là que, pour vous, tout ce qui est spectacle moderne fasse partie des mythes.
Absolument, modernes. Ce sont des mythes privilégiés, n'est-ce pas, puisque d'une part ce sont des spectacles, et d'autre part, ils sont par définition collectifs. Ce qui a considérablement changé, n'est-ce pas, ce sont les modes de transmission et l'ampleur de transmission du mythe de la vedette. Tout ce qu'on appelle en sociologie américaine les mass médias, c'est-à-dire les moyens de diffusion, le cinéma, la radio, n'est-ce pas, la télévision, toutes ces choses-là développent considérablement la portée du mythe. Et au fond, tout de même, la vedette, c'est un phénomène moderne, je crois, essentiellement à cause de l'ampleur de la diffusion.
Les mythes sont mystifiants, mensongers, sont des mots très durs, mais c'est vrai qu'il y a une douceur, je trouve, de Barthes, d'une façon de le dire gentiment, qui n'a rien à voir avec l'ambiance situationniste. Mais la vérité, c'est que mythologie est un texte saignant, c'est une très grande cruauté, Éric Marty.
Alors la voix de Barthes est douce, mais oui. Son propos ne l'est pas. Oui. Et notamment, ce qui est intéressant dans cette période de mythologie, c'est qu'en même temps, il y a Brecht, c'est-à-dire que Barthes fait deux opérations de démolition de la culture française. C'est de prendre un auteur allemand dans les années 50 pour casser le théâtre français et casser précisément l'idéologie française. Et puis prendre la linguistique, qui est une science pas du tout incorporée à la douceur précisément humaniste française, mais qui est au contraire un anti-humanisme.
Parlez-nous de Brecht d'abord, si vous voulez.
De Brecht. Alors, Brecht, précisément, c'est un peu comme le Katch. C'est quelqu'un qui ne psychologise pas, n'est pas dans le discours du bien, parce que ce qu'il montre au théâtre, ce sont les consciences mystifiées. Et son théâtre est un théâtre, précisément, où la sémiologie brechtienne met en évidence cette mystification, et la conscience, elle est dans la salle. C'est la salle qui est libre, et on pourrait dire le théâtre qui est aliéné, enfin la scène qui est aliénée. Et donc Brecht correspond parfaitement aux mythologies, à savoir une pensée de l'aliénation, qui doit être traité, non pas par un discours de démystification globale, un nouveau catéchisme qui dirait ça c'est bien, ça c'est mal, mais par un traitement sémiologique, justement, de la mystification.
La distanciation. Et qu'est-ce qu'il y a de sémiologique, là?
C'est que les gestes de l'acteur ne soient pas mimétiques de son émotion, par exemple. Oui. Que le geste soit dissocié de l'émotion. Les scènes soient cassées, qu'il n'y ait pas de continuité narrative, mais qu'il y ait des tableaux, qu'il y ait un jeu musique-parole, qu'il y ait une artificialisation spectacle. Contre la naturalisation. C'est-à-dire que ce que Barthes considère comme étant le grand mouvement d'empoissement des consciences et d'aliénation, c'est le naturel. C'est l'idée du naturel comme ce qui recouvre précisément le monde de semblant. Mmh. Et ce semblant, on peut le casser comment ? Soit par l'analyse sémiologique, en montrant qu'en fait ce semblant dissimule un système de signes, soit en le cassant pratiquement, comme le fait Brecht au théâtre, par un théâtre qui disloque précisément ce naturel.
Et Barthes aimait beaucoup à ce moment-là le théâtre, qui est quand même l'art spectaculaire essence. Il était proche de Villard, je crois, de Jean Villard.
Alors, il est proche de Villard d'abord, mais en fait, il l'abandonne très vite dès qu'il découvre Brecht, en 54.
Oui.
Donc très tôt, au moment des mythologies. Et Brecht va être pour lui la grande révolution du regard, de l'intelligence, de la signification et d'un théâtre de signes par opposition à un théâtre naturel, naturaliste ou psychologique auquel Villard, malgré tout, reste finalement attaché. Et donc, Barthes participe à l'aventure du TNP, d'Avignon, etc. Mais très vite, Brecht va apparaître comme la grande rupture. Et la violence est là, chez Barthes. Elle est là parce que, évidemment, ne serait-ce que par le langage même de Brecht, cette notion de distanciation qui fait frémir toute la critique théâtrale française, Jean-Jacques Gauthier, enfin le Figaro, enfin tout qui est encore dominé, le théâtre est encore dominé à ce moment-là par une critique très traditionnelle. Le théâtre demeure malgré tout traditionnel. Même quelqu'un comme Genet, finalement, joué par Villard, devient finalement un théâtre psychologique qui ne convient plus. Il faut tout secouer, il faut tout briser. Et Brecht est une arme très intéressante, d'abord parce qu'elle n'est pas française, et donc il y a une francophobie culturelle de cette génération intellectuelle à ce moment-là.
Mais
il est sur la France.
Oui, j'entends.
Et puis,
je vous en prie.
Et en plus, parce que Brecht est bien de l'Est. Et donc, on peut retourner au stalinien, en quelque sorte,
oui.
Un discours anti-stalinien, parce que Brecht est récupéré par l'antistalinisme de Barthes, contre précisément le jdanovisme, le réalisme socialiste, qui n'est au fond le double du réalisme petit bourgeois.
J'allais y venir. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on pourrait juger que Brecht aussi, à un moment donné, fait appel à des grands mythes, avec un théâtre assez politique, parfois attendu. Donc, ça touche un problème de fond. On ne va pas faire toute la liste sur Brecht. Est-ce qu'un spectacle, le théâtre, peut être antispectaculaire, peut pratiquer la critique des spectacles, des mythes anti-mythes, etc. Et peut-être que Debord, 10 ans plus tard, Vincent Kaufmann, est d'emblée très sceptique, parce que les situationnistes, ils n'y croient plus à l'art, plus autant. Ils ne croient pas qu'une critique possible aussi simplement du spectaculaire par le spectacle.
Alors oui, on peut dire qu'ils vont finir par abandonner cette piste-là. Ils en viennent des avant-gardes. Debord fait ses classes du côté des lettristes. Il est dans le post-surréalisme, on peut dire, dans ses débuts. Et puis l'évolution de l'international situationniste, ça sera un abandon progressif de l'art. C'est pas le cas au début. Au début, il y a des artistes dans le mouvement situationniste, il y a des artistes aussi très intéressés par des projets d'architecture plus ou moins utopistes. Ça va se développer avec le temps, l'abandon complet de la pratique artistique. C'est vrai qu'il y a un moment où ça bascule, où les situationnistes vont dire que tout art, à partir du moment où il se constitue comme une forme de représentation, et spectaculaire dans la mesure où il faut bien que quelqu'un le regarde. Mm-hmm. Donc le seul art possible, ce sera l'art vécu, par exemple, dans un mouvement révolutionnaire collectif.
Le passage à l'acte.
Voilà,
en
le passage
de
à l'acte
scène.
Est considéré comme la seule forme acceptable de poésie à un moment donné. Par
alors il y a un autre. Pardon, je peux vous.
Donc il y a cette évolution, mais on peut bien sûr considérer que des spectacles de théâtre ou des textes littéraires peuvent déconstruire, casser les codes des représentations dominantes. C'est ce que toutes les avant-gardes des années 50, 60, 70 ont fait. Ce que Éric Marty vient de dire à propos de Brecht, on pourrait le transposer assez facilement, par exemple, à tout ce qui s'est fait du côté du nouveau roman. Là aussi, il y a...
Ou de Godard.
Exactement, il y a un travail...
Godard est brechtien par moment, enfin dans les Chinoises, exactement. Par exemple, les jeux des pancartes...
Mais Godard était un peu méprisé par Debord, non?
Alors bon, c'est le plus con des Suisses pro-chinois, mais il y avait aussi clairement, au départ, une sorte de proximité. Et ça fait partie ensuite de cette surenchère des situationnistes par rapport à des gens dont ils sont proches. Juste un détail encore, j'ai l'impression que... Pour comprendre en tout cas le spectacle au sens de Debord et ce qu'on peut entendre aujourd'hui par spectacle, il faut, même si c'est un peu artificiel, le distinguer absolument de l'idée de spectacle théâtral.
Oui, c'est-à-dire, je crois on a commencé par là, mais ça va beaucoup plus loin.
En fait, ça n'a à peu près rien à voir et on pourrait presque dire que le spectacle théâtral, c'est le seul endroit où on... Mm-hmm. Enfin, certains types de spectacles théâtraux, c'est le seul endroit où on n'est pas dans le spectacle.
Éric Marty.
Mais Brecht, c'est un peu comme le cache, c'est l'antispectacle dont on parlait.
Exactement.
Au départ. Et par exemple, Barthes va jusqu'à dire... Ce qui est bien chez Brecht, c'est qu'il arrive à détruire le coloré. Détruire le coloré, ça veut dire, en réalité, détruire la mimésis, détruire le naturel, parce que le coloré au théâtre, oui, c'est une imitation, c'est le simili. C'est par le simili petit bourgeois que le coloré parvient finalement à intégrer, à engluer le spectateur dans la mimésis. Et détruire le coloré, et le mot détruire est là, et il est constamment présent dans la bouche de Barthes à propos de Brecht, détruire, c'est vraiment le travail iconoclaste, sémioclaste, de la critique idéologique. Mmh. Et en ce sens, je suis d'ailleurs surpris que Debord ne cite jamais Brecht. Mmh. Ou pratiquement jamais.
Alors il y a peut-être un autre auteur.
Alors que précisément, oui, quand on lit la suite du spectacle, Brecht, qui est marxiste, aurait pu être un élément de contrepoint. Et donc en ce sens, effectivement, Barthes, il sauve l'art d'une certaine manière par ce biais-là. Brecht, il le sert de manière aussi très, très, très violente et il y a une sorte de puritanisme politique à ce moment-là qui est en jeu, par où il s'agit de démolir le visible en tant que confortable, le visible homogène, le visible continu que ne cesse d'imposer la société comme manière d'emprisonner les gens dans un visible rassurant, dans ce que Debord appelle l'unité du spectacle. Qui en fait cache la division du travail ou cache la division sociale. Et cette unité, elle est brisée précisément chez Brecht par la distanciation, par le fait de remplacer la catharsis par la méiotique, par exemple, par le fait de déjouer tous les pièges du visible petit bourgeois qui est invisible de l'unité qu'il faut précisément détruire.
Alors il y a un autre auteur, justement, non français, qui pourrait peut-être avoir accompli la prouesse d'un spectacle de théâtre profondément antispectaculaire, c'est Peter Handke, dans un livre qui s'appelle « Outrage au public », dont vous nous avez signalé l'importance, Vincent Kaufmann, en préparant cette émission, et où il s'agit tout simplement, pour les acteurs, d'insulter le public. Écoutez.
Vous avez déjà votre opinion. Vous avez déjà compris que nous rejetons quelque chose. Vous avez constaté que nous nous répétons constamment. Vous avez compris que cette pièce est une transposition théâtrale. Vous avez décelé la structure dialectique de cette pièce. Vous avez flairé un certain esprit de subversion. Vous vous rendez compte que nous rejetons beaucoup de choses. Vous avez constaté que nous nous répétons, vous êtes intelligent, vous êtes perspicace. Vous n'arrivez pas à vous faire une opinion. Vous n'avez pas encore découvert la structure dialectique de cette pièce. Maintenant, vous commencez à deviner. Vous êtes toujours en retard d'une réflexion. Vous commencez seulement à avoir des éclairs d'intelligence.
Vous avez l'air fascinant. Vous avez l'air captivant. Vous avez l'air éblouissant. Vous avez l'air palpitant. Vous êtes unique.
Mais vous ne faites pas le poids. Vous n'êtes pas une riche idée. Vous êtes plutôt lassant. Vous n'êtes pas un sujet en or. En vous choisissant, l'auteur était mal inspiré. Ce n'est pas ça, la vie. Vous n'avez pas de talent. Vous ne nous transportez pas dans un autre monde. Vous ne nous fascinez vraiment pas. Vous ne nous éblouissez vraiment pas. On peut dire que vous ne nous amusez pas. Vous n'aimez pas jouer. Vous n'avez pas le don. Vous ne savez pas ce qu'est le théâtre. Vous n'avez donc rien à dire. Vous n'êtes pas convaincant. Vous n'êtes pas là. Vous n'arrivez pas à nous faire oublier le temps. Vous n'arrivez pas à nous intéresser. Vous nous ennuyez.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Dans cette série sur le public, qu'est-ce que c'est le public? Nous parlons ce matin de Guy Debord et de Roland Barthes, la critique du spectacle et de ses mythes. Je suis en compagnie d'Éric Marty et de Vincent Kaufmann. Vincent Kaufmann, on vient d'entendre un extrait d'Outrage au public, cette pièce de Peter Handke de 1966. On ne sait d'ailleurs pas très bien, il y a plusieurs acteurs, peut-être certains font répondre le public aux insultes qu'il reçoit de la part d'autres acteurs. Tout le monde, au fond, se dit des choses très salées. Et je trouve intéressant, nous avons arrêter l'extrait sur l'idée de l'ennui. Finalement, tout le monde s'ennuie, et ça, c'est quand même le comble pour un spectacle. C'est comme ça qu'on démolit les spectacles, en disant que tout ça est ennuyeux.
Alors oui, on peut dire que le spectacle est ennuyeux, mais je crois que dans les années 50, 60, 70, l'ennui est presque une valeur révolutionnaire.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui.
J'ennuie, oui. Donc je suis voilà. Du bon côté.
Exactement.
Être du côté du plaisir, de l'identification, de l'immersion dans une histoire, c'est tout à fait suspect.
C'est important l'ennui en même temps, si on est vraiment, oui, vraiment oui. Contre tout
il,
ce qui se
passe. Il faut savoir ennuyer, ça fait partie de cette tendance générale qui consiste à ne pas répondre aux attentes d'un public. Je crois que c'est ça un peu le point commun de tous ceux dont on parle ou dont on pourrait parler ici.
Et le comble aussi, évidemment, c'est le comble de l'avant-garde, c'est de faire des films comme Guy Debord qui sont diffusés par son mécène Gérard Lebovici devant des salles vides. Ça Exactement. Tourne toute la journée. Et d'ailleurs, la voix de Guy Debord, si je puis me permettre, a un petit côté ennuyeux qui fait peut-être partie de l'histoire. Écoutez.
Chaque produit particulier qui doit représenter l'espoir d'un raccourci fulgurant pour accéder enfin à la terre promise de la consommation totale est présenté cérémonieusement à son tour comme la singularité décisive. Mais comme dans le cas de la diffusion instantanée des modes de prénoms apparemment aristocratiques qui vont se trouver portés par presque tous les individus du même âge, l'objet dont on attend un pouvoir singulier n'a pu être proposé à la dévotion des masses que parce qu'il avait été tiré à un assez grand nombre d'exemplaires pour être consommé massivement. Le caractère prestigieux de ce produit quelconque ne lui vient que d'avoir été placé un moment au centre de la vie sociale, comme le mystère révélé de la finalité de la production. L'objet qui était prestigieux dans le spectacle devient vulgaire à l'instant où il entre chez ce consommateur, en même temps que chez tous les autres. Il révèle trop tard sa pauvreté essentielle, qu'il tient naturellement de la misère de sa production. Mais déjà, c'est un autre objet qui porte la justification du système et l'exigence d'être reconnu. L'imposture de la satisfaction doit se dénoncer elle-même en se remplaçant, en suivant le changement des produits et celui des conditions générales de la production. Ce qui a affirmé, avec la plus parfaite impudence, sa propre excellence définitive, change pourtant, dans le spectacle diffus, mais aussi dans le spectacle concentré. Et c'est le système seul qui doit continuer. Staline, comme la marchandise démodée, sont dénoncés par ceux-là même qui les ont imposés.
Quel ennui le spectacle. Il nous le dit bien quand même, Debord.
Oui.
Vincent Kaufmann.
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la voix de Debord, oui. comme une espèce de gouffre dans lequel, finalement, toutes les images qui font la séduction du cinéma s'engouffrent et disparaissent. Hein. Elles couvrent, recouvrent le domaine des images. C'est ce qui reste et c'est ce qui semble central dans le cinéma de Debord, ce qui est quand même un sacré paradoxe. Et ça fait partie effectivement de sa façon à lui d'ennuyer, de provoquer le public. Je ne sais pas si on va passer un autre extrait de son film sans doute le plus beau, In Jerome, où il
si commence vous voulez.
En
on va disant... l'écouter comme ça, voilà, vous pourrez nous faire oui. le commentaire global et on va revenir à Barthes pour voir s'il y a des intersections, malgré peut-être la perplexité, c'est pas le même monde et puis ça se rejoint. Écoutons donc cet extrait de ce film qui porte en nom un palindrome, on peut le lire dans les deux sens. In Jerome imus nocte et consumimur igni, long métrage de 1978, qui veut donc dire nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu.
Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. Plusieurs excellentes raisons justifient à mes yeux une telle conduite et je vais les dire. Tout d'abord, il est assez notoire que je n'ai nulle part fait de concession aux idées dominantes de mon époque, ni à aucun des pouvoirs existants. Par ailleurs, quelle que soit l'époque, rien d'important ne s'est communiqué en ménageant un public, fût-il composé des contemporains de Périclès. Et, dans le miroir glacé de l'écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d'une démocratie. Voilà bien l'essentiel. Ce public si parfaitement privé de liberté et qui a tout supporté mérite moins que tout autre d'être ménagé. Les manipulateurs de la publicité, avec le cynisme traditionnel de ceux qui savent que les gens sont portés à justifier les affronts dont ils ne se vengent pas, lui annoncent aujourd'hui tranquillement que, quand on aime la vie, on va au cinéma. Mais cette vie et ce cinéma sont également peu de choses. Et c'est par là qu'ils sont effectivement échangeables avec indifférence.
Je vous laisse commenter, Vincent Kaufmann.
Alors, je dois d'abord souligner le début de cet extrait. Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. Hein. C'est peut-être une des versions les plus radicales, encore une fois, de ce qui est présent sous toutes sortes de formes dans énormément de démarches de l'avant-garde au cours de ces années. C'est une formule que je retiendrai simplement comme ça aujourd'hui parce qu'elle est vraiment aux antipodes de tout ce qui semble dominant aujourd'hui. Qui ose penser aujourd'hui que le public n'a pas raison. Hein. Combien de fois est-ce qu'on entend le public a toujours raison, notamment dans le domaine de la culture, de l'art, où ce sont les goûts du public.
Ou de la politique, bien sûr.
Et de la politique, oui.
Le peuple c'est a même toujours raison, une définition, hein, mais... d'une certaine façon, de la démocratie élective.
Exactement, oui. Et ça pose évidemment toutes sortes de problèmes quand on voit où on aboutit aujourd'hui avec ce genre de credo. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans une époque où on est aux antipodes de cette idée que le public a toujours raison. Il y a dans les avant-gardes, parallèlement au mouvement politique dominant de cette époque, une volonté, encore une fois, de provoquer, de déstabiliser le public, qui est finalement aussi une volonté de l'éduquer. Il y a derrière tout ça un projet qui est toujours un petit peu un projet de rééducation. Pourquoi ? Parce que le public en général se trompe, parce qu'il est aliéné. Éric Marty a utilisé ce terme tout à l'heure et qu'il faut le désaliéner, le faire revenir à une sorte de conscience et de souveraineté. Hein. Debord parle d'ailleurs dans cet extrait du fait que ce public qu'il méprise a tout accepté. C'est un public qui n'est pas libre. Et c'est c'est ça tout le problème. On a ici, en quelques phrases, finalement, sa conception du spectacle, peut-être pas sa définition, mais sa conception du spectacle, c'est finalement que le spectacle, c'est l'ensemble des procédures, des discours, des représentations qui font que nous nous soumettons à un certain ordre des choses, qui est l'ordre de la société marchande, qui est la société de consommation, etc.
Éric Marty, on peut aussi parler, vous avez évoqué les consciences mystifiées, ce qui, en tout cas, m'évoquait une expression de Henri Lefebvre aussi, quand même un nom qu'on a envie de prononcer de temps en temps. Est-ce que vous pensez qu'en 1957, quand Barthes nous décrit l'adoration du steak frites, de la déesse, nouvelle voiture, de la pub, la façon dont on... ces pubs pour les lessives qui mettent en scène de la saleté, qu'évidemment la bourgeoisie efficace est capable de vaincre grâce à des produits formidables qui lavent plus blanc que blanc. Vous pensez qu'au fond, Barthes a le même dégoût que Debord, qui l'exprime sur un mode quand même plus franc?
Alors, non, le mot dégoût ne conviendrait pas à Barthes parce que justement, il veut éviter précisément ce type de réaction, disons, où l'arrogance pourrait être le moteur du discours. Mais il me semble que quand le propos de Debord qu'on vient d'écouter et dans ceux de Barthes, il y a eu le mot le public, le mot spectateur qui a été prononcé, mais là, il y a un mot qui pourrait éclairer cela, c'est le mot consommateur. C'est-à-dire que ce qui caractérise au fond Barthes et Debord dans leur situation historique, c'est d'avoir assisté à une mutation du capitalisme extrêmement profonde, qui est le surgissement de la société de consommation et qui change tout. Parce que est-ce que chez Marx, on peut trouver quelque chose qui nous dise quelque chose du consommateur? Par exemple, est-ce qu'au fond le prolétaire est un consommateur? Alors, si le prolétaire est un consommateur, alors est-il encore un prolétaire? Et quelqu'un comme Kojève, qui est aussi un nom qu'on pourrait nommer, parce que évidemment, Debord s'y intéresse à cause de Hegel, et puis Barthes aussi l'a beaucoup lu. Kojève explique en gros que finalement, le prolétaire des années 60 est au fond le complice du capitalisme en tant que consommateur, et que en réalité, nous sommes passés d'une société d'exploitation à une société de consommation, une société où la plus-value ne revient pas seulement au capital, où la plus-value, le surprofit, au fond, a été distribué de manière suffisante pour faire de la consommation le nouveau régime économique de l'Occident. Et, par exemple, Warhol, un nom qu'on pourrait aussi faire intervenir avec Debord et Barthes, explique que le Coca-Cola, justement, eh bien, c'est un objet qui est parfaitement démocratique et presque une forme de communisme de la consommation, puisqu'il est le même pour le grand capitaliste que pour le prolétaire. Et la marchandise, c'est la marchandise qui a précisément permis la création de la consommation. C'est pas seulement l'extension du financement qui permet de créer la consommation, c'est la marchandise qui est devenue, justement, comme précisément le disait Marx, un fétiche et non plus un objet. Où l'usage n'a plus aucune importance. C'est au fond l'échange, c'est précisément le semblant qui compte, où l'on consomme des semblants et non plus des objets ou des marchands ou des objets. Et donc il y a un changement de régime, je dirais, on pourrait dire anthropologique, que le marxisme est bien en mal d'analyser. Et pour cela, il faut précisément le repenser entièrement. Donc ce qui est frappant dans cette période, c'est qu'au fond, il y a une expansion extraordinaire du capitalisme, et en même temps une crise du marxisme pour précisément penser cette expansion. Et ça va être le travail, on pourrait dire, de Debord et de Barthes, d'essayer de trouver d'autres éléments, d'autres moyens pour penser cette nouvelle situation. Alors Henri Lefebvre a été un des éléments pour penser ça, tout un tas de toute l'opposition anti-stalinienne, la pensée marxiste-stalinienne va être précisément le lieu pour penser un autre régime d'analyse et de critique du système, mais ils sont quand même dans une situation très difficile du fait de cette espèce de... Tout d'un coup, en effet, Kojève va jusqu'à dire qu'au fond, les USA, c'est l'URSS réussie.
Oui.
Hein? Alors, donc on arrive à des situations quand même d'impasse politique qui sont quand même assez graves. Et quand Debord...
Mais je pense qu'en même temps, voilà, le problème, c'est que... Enfin, moi, j'ai pas tellement envie qu'on termine l'émission sur l'aspect politique et marxiste et critique du marxisme, parce que je crois que chez les deux, à un moment, tout cela est dépassé dans autre chose. Et chez Barthes, D'ailleurs, dès le degré zéro de l'écriture, écrit 4 ans avant Mythologie, l'enjeu, c'est le texte, comme on disait à l'époque. C'est essayer de trouver un style, une forme qui nous fasse sortir du spectacle. Et là, on peut dire que c'est un enjeu qui va très au-delà, qui est différent des enjeux politiques. Alors, je vous poserai la même question. Qu'est-ce qui reste ensuite à Debord, qui peut-être sur la fin est moins marxiste que rousseauiste, mais ce sont ces points que j'aimerais qu'on traite, parce que je vous ai très, très pointu l'un et l'autre sur ces questions.
Alors, pour Barthes, le texte, c'est politique, hein, quand même.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que, alors, je vous rends très, très précisément, ce qui va être le salut, au fond, pour Barthes, ça va être le Japon. Le Japon, comme un système, précisément, de production où l'idéologie semble avoir disparu au profit d'un empire des signes. Et on parlait de Kojève.
Oui.
Et je pense que la clé de tout ça, c'est Kojève qui la donne quand il dit, parce que lui aussi découvre le Japon dans les années 60, et il voit en Japon quelque chose qui, tout d'un coup, éloigne l'idée de fin de l'histoire, qui éloigne l'idée du dernier homme, qui éloigne l'idée de l'homme heureux au profit d'un nouveau système. Il appelle ça le snobisme de masse. Tout d'un coup, le Japon invente quelque chose comme un snobisme de masse où les signes, précisément, sont vidés de contenu, où le monde est un monde purement formel, sans humanité au sens précisément de la bourgeoisie, au sens de l'idéologie bourgeoise. Et ce Japon, on pourrait dire que Kojève et Barthes le partagent, comme ce snobisme de masse, par où, en effet, il y a un système social, une civilisation qui est capable de produire quelque chose qui ne soit pas la mystification ni le spectacle, qui soit justement l'empire.
Alors aujourd'hui, on se dit que le Japon a quand même connu le capitalisme aussi.
Oui. Enfin, ce sont des utopies.
sur la question de la posture face au spectacle, sur le rousseauisme de Debord, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser, Vincent Kaufmann ?
Alors, je crois que après les luttes autour de mai 68, avec beaucoup d'activités collectives, groupales, il y a eu bien entendu un reflux, et Debord peu à peu a abandonné toutes les pratiques liées à des groupes. Et parallèlement, c'est aussi le moment où toute la terminologie marxiste ou post-marxiste disparaît de ce qui l'intéresse. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une sorte de rousseauisme qui se met en place chez lui. C'est-à-dire il est seul et il se met en scène comme le dernier ou seul ennemi de la société du spectacle. Et son combat, il le mène avec des textes où il se représente lui-même. Finalement, à partir de la fin des années 70, tous ces textes sont implicitement ou explicitement autobiographiques.
Parano, on est d'accord aussi. Ils ont parfois raison, les paranos, nous savons bien.
Une parano,
mais un peu moins contre le monde entier.
Dans son cas, je crois,
jouer.
Je pense pas qu'il soit vraiment paranoïaque, mais une façon de se mettre en scène comme l'ennemi, le seul ennemi, le seul qui soit resté radical, seul ennemi de la société du spectacle. Et il multiplie les autoportraits, les textes autobiographiques, et il pratique beaucoup la réfutation. Il y a quand même 2 ou 3 livres où il part de tout ce qui s'écrit sur lui, les articles, les rumeurs, les malveillances, et il réfute tout ce qui se dit sur lui.
Et vous, Vincent Kaufmann, vous avez écrit « Dernière nouvelle du spectacle », sur ce que les auteurs deviennent aujourd'hui, ce que la littérature devient. C'est un sujet qui traverse votre itinéraire. Vous pensez que les mythes et le spectaculaire ont envahi le lieu qui était anciennement celui de la résistance à tout cela, à savoir le monde littéraire. Il y a des choses convenues, et là vous êtes un peu dégoûté, non, ou le mot est trop fort? Dites-nous un peu comment vous voyez
tout
ça.
Moi, dégoûté, je serais plutôt comme Barthes, c'est-à-dire j'ai quand même aussi une sorte de tendresse pour tout ça, mais c'est vrai que j'ai essayé dans ce livre d'analyser la façon dont la littérature elle-même est soumise aux impératifs du spectacle. Mais alors, d'un spectacle qui est peut-être moins celui qu'a pensé Debord dans une perspective marxiste, où il y a quand même toujours cette idée que on est manipulé, on nous ment, hein. C'est d'ailleurs pas pour rien que les théories de Debord plaisent beaucoup aux complotistes, souvent. Je partirais plutôt là d'une sorte d'autonomisation du spectacle. C'est-à-dire le spectacle aujourd'hui, avec les dispositions dispositif médiatique que nous avons, les milliers de chaînes de télévision, de plateformes sur Internet, etc., c'est un ensemble où tout le monde se bat pour notre attention. Et pour se battre pour notre attention, pour attirer notre attention, oui, il y a un certain nombre de principes finalement assez simples qu'à peu près tout le monde suit. Il faut mettre en scène de la violence, il faut exhiber de l'intimité, il faut faire comme si on était authentique, surtout quand
on n'est
pas du
tout. Il faut dire que tout est vrai, qu'on a vécu
exactement
tout ça, écrire de la fiction.
Le vécu compte beaucoup,
etc.
Il y a toute une batterie de choses qui existent un peu partout, dans la politique, dans
raconter
l'ensemble des spectacles, mais aussi en littérature.
Oui.
C'est clair que la littérature est devenue une sorte de région d'une économie beaucoup plus générale de l'attention, avec ses avantages et ses désavantages. C'est un marché de niche, on peut mieux y faire certaines choses qu'ailleurs, et puis d'autres sont peut-être moins, ça se prête moins à d'autres choses.
Éric Marty.
Oui, moi ce qui me frappe chez Barthes, pour faire le contrepoint avec Debord, c'est que son dernier livre, La Chambre Claire, qui est aussi un livre autobiographique, tout de même se termine sur une page sur la société. En gros, il dit, voilà, les gens sont plus tristes que leur image. Et il finit sur la photographie comme folie, comme, au contraire, comme instrument social. Et il termine sur un ton assez debordien, en mettant en évidence qu'au fond, l'image a remplacé le réel. Le réel est comme évaporé et nous ne vivons plus que dans une société de simulacres, de simulations.
Et là, c'est Baudrillard qu'on entend aussi,
loin,
encore un nom qu'il fallait prononcer.
Baudrillard,
dans
qui a
émission.
Été l'élève de Barthes à l'école pratique des études et qui a travaillé au siècle fer. Et donc, cette idée, au fond, d'une dissolution de la réalité qui est peut-être, au fond, l'angoisse fondamentale du sujet contemporain.
Et vous ne pensez pas à l'inverse, que, comme le dit Vincent Kaufmann, que le réel revient comme la seule vraie valeur de la littérature, raconter sa vraie vie.
Oui, mais...
ne plus prétendre faire de la fiction, ce qui...
C'est un artefact.
Pose un problème de créativité aussi.
C'est un pur artefact. C'est-à-dire que c'est un réel qui est entièrement mythique, justement, qui est un réel qui n'a plus qui n'a rien de réel, qui est une sorte d'image justement du réel et un pur artefact. Et en ce sens, en effet, on vit dans un spectacle au second degré, au troisième degré, au quatrième degré, qui se replie sur lui-même et qui a en fait évaporé tout réel au nom précisément d'un pseudo-réel qu'on met en évidence comme régentant le monde, mais ce n'est pas le cas.
Vincent Kaufmann.
Oui, on est dans une sorte de mythe de l'authenticité. Ça devient très difficile de faire quoi que ce soit, d'écrire quoi que ce soit, même de faire de la politique sans dire qu'on est authentique, qu'on est comme on est, qu'on est soi-même. C'est un des motifs dominants aujourd'hui au même titre que cette idée dont on est parti, dont on a parlé tout à l'heure, qui est que le public a toujours raison.
Et donc pour donner un exemple...
Ça fait partie comme ça d'une batterie de concepts ou de mythes peut-être qui sont très solidaires.
Et puis,
les
auteurs,
uns des autres.
Voilà, oui. Qui disent ça, c'était mon histoire, pas celle d'une autre. Vous faites une analyse très intéressante de la polémique entre Camille Laurence et Marie Darrieussecq,
oui,
à propos d'une histoire réelle
qui
chacune aurait récupérée. Et l'une a accusé l'autre de plagiat psychique. En gros, tu m'as piqué mon histoire.
Voilà. Et ça se répète pas plus tard qu'il y a quelques jours ou semaines avec Daoud, maintenant, qui est accusé d'avoir volé la souffrance d'une femme pour écrire son roman. Et d'ailleurs, c'est toujours quand on a du succès que ça se passe, évidemment. Sinon, ça n'intéresse personne.
Comme si le plagiat était devenu l'essence, finalement, du discours. Et que on ne peut pas en sortir.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Évidemment, c'était la chanson obligatoire, mais quel talent quand même. Queen, The Show Must Go On, 1991. Merci beaucoup Vincent Kaufmann, Eric Marty. Les références Merci. De vos travaux, très riches, sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à l'erreur. Voici le pourquoi du comment.
Comment la science affronte-t-elle l'erreur? Chacun sent qu'il y a un lien indéfectible, un lien de contradiction, au moins au départ, fondamental, entre ce qu'on appelle la science et ce qu'on appelle l'erreur. C'est parce que les humains sont capables de se tromper dans une démarche de connaissance qui a quelque chose de vital pour eux, qu'ils ont inventé cette démarche qu'on appelle la science et qui, d'abord par ses règles de méthode, vise justement à éviter et à corriger nos erreurs. Mais il y a des défauts de la connaissance parmi lesquels les erreurs que la science est chargée de corriger. Le calcul fondé sur des règles mathématiques vise à nous éviter des erreurs justement dans le rapport à la quantité d'objets que nous avons à traiter, parfois pour survivre. Et s'il y a des erreurs de calcul, alors elles sont liées aux défauts personnels d'un individu donné et non pas à la méthode elle-même qui doit être complètement avérée. Et de même, la science est l'ensemble des connaissances vraies qui, en principe, ont écarté toutes les erreurs, la science est le contraire de l'erreur, et même la façon dont elle prouve en réfutant certaines hypothèses, comme le disait Karl Popper, par la falsification, montrer que quelque chose est faux, ça n'est certainement pas faire une erreur, au contraire, c'est la condition même de la vérité. La science est donc le contraire de l'erreur, elle est ce qui évite les erreurs. Et pourtant, peut-être y a-t-il une place pour l'erreur, non pas tant dans la science en tant que telle, dans la vérité, mais dans son histoire, dans son accession à la vérité. On ne peut peut-être pas penser la science sans l'erreur en son cœur, en quelque sorte, parce que la science est humaine, comme toutes les démarches des humains, bien entendu, et que le fait de s'apercevoir d'une erreur à l'échelle d'une communauté scientifique, voire de l'histoire de l'humanité, est la condition même du progrès. Toute l'histoire des sciences, l'histoire illustrée, par exemple, en France, par Gaston Bachelard et Georges Canguilhem, poursuivie d'ailleurs par quelqu'un comme Michel Foucault, on l'oublie trop souvent, est fondée justement sur cette place interne à l'erreur et à sa correction critique, volontaire et prouvée, résolue de la science, et bien fondée sur l'erreur et sa reprise et non pas sur le postulat a priori que la science écarte l'erreur de manière définitive. Ainsi, la science s'est-elle aperçue d'immenses erreurs dans l'histoire de l'humanité, dans sa propre histoire scientifique. Les humains ont cru longtemps que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Il y avait certes une illusion objective, mais aussi une erreur subjective. Les humains ont cru longtemps aussi que le mécanisme de la vie était fondé sur des essences métaphysiques et non pas sur des caractères génétiques. Et quand on a découvert que la vie était un programme comparable à un programme d'ordinateur, on a cru qu'on avait découvert la machine parfaite. Pourtant, Canguilhem et Foucault à sa suite ont montré qu'il y a des erreurs, y compris dans la vie. La vie alors comparée à un sujet de la connaissance. La vie elle-même fait des erreurs, des déficits, des perturbations, des erreurs de copie, par exemple, dans l'ADN, qui entraînent des erreurs. Alors, il faut admettre, comme dit Michel Foucault, que la vie elle-même est capable d'erreurs, que l'erreur est la racine de ce qui fait la pensée humaine et son histoire. Au niveau le plus fondamental de la vie, et non seulement de l'être humain, la capacité à se tromper doit être reprise de manière critique, mais aussi comme l'indice que la connaissance est toujours une histoire.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Grégory Wallon. Elle a été préparée en particulier par Philippine de Bélois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!